autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs à l'esprit libre et ouvert, pour une nouvelle saison de rediffusion estivale qui démarre sous les flocons de neige, dans l'œil du mathématicien et conteur Étienne Guis, venu partager ici même, le 23 février dernier, la petite histoire des flocons de neige, pour fondre devant ces mini-cristaux splendides, merveilles de symétrie et de géométrie, qui ont fasciné les plus grands scientifiques, philosophes, mais aussi artistes, poètes et grands enfants un peu givrés que nous sommes. Pourquoi les flocons ont-ils toujours six branches ? S'étonnait l'astronome Johannes Kepler. La nature s'écrirait-elle en langage mathématique comme le pressentait Galilée ? Comment expliquer et reproduire une telle beauté que nous apprennent les flocons de neige sur l'atmosphère et la météo du ciel ? Comment s'est développée la cristallographie et en combien de dimensions ? Piste de réflexion scientifique et poétique à réécouter tout de suite autour de la question « Comment tombe la neige ?» et jusqu'où nous entraînera la science des flocons de neige. Bienvenue.
Snow is a letter from heaven.
La neige est une lettre envoyée du ciel. Citation célèbre d'Ukichiro Nakaya, professeur à l'Université impériale qui a dédié sa vie à l'étude de la neige, fondant un nouveau champ de recherche, la glaciologie. Il a pu analyser les conditions atmosphériques, la météo du ciel, en observant les flocons de neige. Nakaya a créé les premiers flocons de neige artificiels.
Connu de tous au Japon, le professeur Nakaya et cette merveilleuse science des flocons de neige que vous nous faites découvrir. Étienne Guis, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct, en studio avec nous pour partager donc la petite histoire des flocons de neige, titre de ce petit ouvrage splendide, lui aussi, il faut le dire. D'ailleurs, vous n'êtes pas le premier ni le dernier, Étienne Guis, à vous passionner pour ces merveilles de la nature qui continuent de fasciner alors non seulement les mathématiciens comme vous, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, de l'unité de mathématiques pures et appliquées à l'ENS de Lyon, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Qu'est-ce qui vous fascine tant, Étienne Guis, dans les flocons de neige ?
Ce qui me fascine d'abord, c'est qu'ils sont beaux. Donc je suis d'abord fasciné, comme n'importe qui, par la beauté. Puis ce qui me fascine aussi, c'est que dès que je regarde un flocon, je le regarde avec des yeux mathématiques. Donc je vois des mathématiques. Et puis peut-être aussi le fait que les flocons de neige, pour moi, sont une opportunité de parler de science à des non-scientifiques. C'est une porte ouverte qui permet de raconter des choses simplement et qui donne une idée de ce qu'est le travail du scientifique.
C'est d'ailleurs en faisant des conférences, je crois, notamment pour le jeune public, et puis à l'université aussi, que vous avez eu l'idée de vous faire conteur, finalement, de ces histoires. Parce que la petite histoire des flocons de neige, c'est effectivement la merveilleuse histoire de ces objets incroyables de la nature et de la science, et d'études de la science. Mais c'est aussi un voyage à la rencontre de plein de personnages qui les ont étudiés. C'est la beauté, la science, la réflexion. J'ai envie de dire que c'est la forme et le fond, parce que ça fond aussi.
Depuis toujours, j'adore les sciences. Mais depuis toujours, j'adore aussi l'histoire des sciences. Et j'ai beaucoup de mal à, par exemple, comprendre un théorème mathématique ou une découverte mathématique ou physique indépendamment de son histoire. Depuis que je suis tout petit garçon, j'essaie de comprendre l'évolution.
Même vous, le mathématicien, vraiment, de mathématiques pures.
Bien sûr. J'aime comprendre les mathématiques à travers leur développement historique.
Alors précisément, pour nos auditeurs, certains d'entre eux n'ont pas ou très peu vu la neige. C'est comment un flocon de neige ? C'est un peu comme un cristal. Décrivez-nous. Alors, il y en a plein, mais ils sont tous magnifiques.
Alors,
et ils ont tous six branches.
La première chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas un flocon de neige. Il y en a énormément. Il y en a, à vrai dire, une infinité. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'ils sont tout petits. Un flocon de neige, en général, c'est 1 ou 2 millimètres. Dans mon bouquin, j'ai mis une photo du champion, le plus grand, qui fait quelque chose comme 1 centimètre. Donc, ne vous attendez pas à avoir des très, très grands flocons de neige.
Mais c'est vraiment des petits, tout petits cristaux.
La troisième chose suivante qu'il faut dire, c'est que si on sort un jour où il neige et qu'on regarde la neige avec ses yeux, ou encore mieux, avec une loupe, il ne faut pas s'attendre à voir immédiatement ces merveilles partout. C'est un peu comme quand on se promène sur la plage et qu'on cherche des coquillages. Il y en a plein qui sont moches. Hein, et que si on cherche un joli coquillage, eh ben, il faut le chercher un certain temps. C'est la même chose pour les flocons de neige. Alors, le grand photographe du 19e siècle, début 20e siècle, Bentley, qui a fait des photos merveilleuses, expliquait que pour faire une photo, il fallait examiner 1000 flocons de neige.
Ah, hein.
Autrement dit, ce sont des choses, c'est pas gagné d'avance. Hein. La beauté, il faut la chercher.
Autour de la question comment tombe la neige et quelle science des flocons de neige, un des premiers qui a regardé les flocons de neige avec une curiosité véritablement scientifique, voulut consacrer évidemment un chapitre, c'est l'astronome Johannes Kepler. Le curieux, hein, dites-vous, Étienne Gis. Je propose d'écouter un autre astrophysicien, particulièrement curieux et poète, lui aussi à ses heures perdues. C'est Jean-Pierre Luminet, qui était récemment notre invité et qui a consacré plusieurs ouvrages aux pionniers de l'astronomie, aux bâtisseurs du ciel, dont Kepler. Jean-Pierre Luminet était donc récemment notre invité pour L'écume de l'espace-temps, son dernier ouvrage. Écoutez son éclairage sur Kepler et les flocons de neige.
Alors le génial Kepler n'était pas seulement astronome, il réfléchissait à la nature profonde des choses, il était persuadé qu'il y avait dans la nature, que l'univers était construit à partir de ce qu'il a appelé lui-même des archétypes, bien avant les archétypes dont parlera la psychanalyse jungienne. Ces archétypes, c'était pour lui des formes élémentaires de la nature. Et il a écrit un traité extraordinaire qui s'appelle le traité de la neige sexangulaire, où il avait fait la supposition, par des raisonnements mathématiques très puissants, que la structure des cristaux de neige obéissait à certaines symétries et qu'il y avait donc une forme de beauté. Kepler était hanté, comme certains physiciens, par le fait que l'univers pouvait être construit sur une forme de beauté et d'harmonie. Et il a développé donc ses considérations. Il avait également réfléchi sur la structure des alvéoles d'abeilles. Il avait finalement anticipé quasiment de 3 siècles les recherches actuelles très pointues sur justement les lois de la nature. Comment se fait-il que l'on retrouve dans la nature, aussi bien dans l'organisation des fleurs et beaucoup de choses, des lois mathématiques comme le nombre d'or, la suite de Fibonacci et des éléments de symétrie? Est-ce que la beauté fait intrinsèquement partie de la nature? C'est une très profonde question.
C'est une profonde question que j'ai envie de vous retourner, Étienne Gis, évidemment, en citant Galilée. Est-ce que la nature s'écrit en langage mathématique? Mais est-ce que la beauté fait partie intrinsèquement de la nature, à votre avis?
Je suis très embêté de devoir y répondre en 15 secondes,
oui,
parce que depuis des millénaires, les philosophes réfléchissent à cette question.
Bien sûr.
Il est vrai que la symétrie et la beauté sont des concepts qui ne sont pas identiques, mais qui sont bien sûr très reliés. Les architectes ont souvent tendance à fabriquer des bâtiments possédant une symétrie. Mmh. Et en effet, on peut, en première approximation, dire que beauté et symétrie sont très très proches.
Ah, quelque chose qui est symétrique, on va le trouver beau. Enfin, on peut le dire ça
exactement,
comme ça.
Exactement.
C'est ça, hein.
C'est
la symétrie va nous déranger un peu.
Exactement. Mais c'est un peu compliqué parce que, par exemple, à la fin de mon livre, j'explique des choses beaucoup plus récentes, ce qu'on appelle les quasi-cristaux, des choses qui, pour le coup, datent du relativement récemment, de la fin du XXe siècle. Et ces quasi-cristaux ne sont pas vraiment symétriques au sens strict du terme. Et quand on les regarde, notre œil voit ces dessins magnifiques. Et de temps en temps, on perçoit les petits défauts de symétrie. Et ce sont ces petits défauts qui nous interpellent et qui nous font voir une beauté de nature un peu différente.
Waouh, là, effectivement, ça se complexifie. Vous ne pouvez évidemment pas répondre à cette question, de est-ce que la nature s'écrit en langage mathématique? Mais en même temps, pourquoi est-ce que tous ces flocons, et c'est une question qui taraudait aussi Kepler, ont toujours 6 branches?
Bon, alors là-dessus, c'est une question magnifique que pose Kepler. Et moi, ce qui m'impressionne beaucoup chez Kepler, c'est qu'il a cette capacité de se poser des questions. Et de se poser des questions auxquelles, d'ailleurs, il n'a pas pu répondre lui-même, parce qu'il a fallu, comme on l'entendait à l'instant, il a fallu attendre plusieurs siècles
pour répondre,
avant d'avoir une réponse un peu finale. Mais Kepler, immédiatement, fait l'analogie entre le 6 des 6 branches d'un flocon et le 6 des 6 hexagones qui forment les alvéoles d'abeilles, et puis le 6... vous savez, les petites tomettes, quand on fait un pavage de sa salle de bain ou de sa cuisine avec ces petits carrelages qui sont des hexagones,
rouge, ocre,
etc. Et qui ont cette propriété d'avoir exactement six côtés. Pourquoi six et pas cinq, et pourquoi pas plus ou moins? C'est fondé sur une propriété purement géométrique qu'on connaît au moins depuis Euclide et même encore avant. C'est simplement le fait que lorsque vous prenez un disque, par exemple une pièce de monnaie, et je le dessine dans mon livre quelque part, et si vous mettez autour de cette pièce de monnaie d'autres pièces de monnaie, vous voyez que vous pouvez en mettre exactement 6 qui vont faire le tour de la première la pièce de monnaie. 6 et pas 7. 7, il n'y a pas assez de place pour en mettre. Et 5, si vous n'en mettez que 5, il reste un trou. Et quand vous avez donc une pièce entourée par 6 pièces, vous pouvez continuer comme ça et vous fabriquez automatiquement quelque chose qui a automatiquement une symétrie d'ordre 6. Et cette symétrie d'ordre 6, est, selon Kepler, c'est ça son intuition. Mmh. Il se dit probablement que la symétrie 6 branches des flocons de neige a comme origine une structure au niveau infinitésimal, qu'aujourd'hui on appelle atomique. Et bien entendu, à l'époque de Kepler, on ne connaissait absolument rien sur les atomes. Mais il envisage que cette symétrie, on peut dire macroscopique, qu'on voit avec ses yeux, a une origine microscopique pour des choses dont il ne sait même pas très bien ce que c'est, puisque ce sont des atomes, finalement.
Et il a eu raison. Enfin, l'intuition était géniale. Voilà.
Mais ce qui est très impressionnant, attendez, Kepler est quelqu'un de vraiment génial, comme on disait à l'instant, c'est peut-être le plus grand scientifique que je cite dans mon livre, sans aucun doute Kepler. Kepler se pose la question, bon, maintenant je sais qu'un disque peut être entouré par 6 autres disques, mais une boule. Prenez une boule, prenez par exemple une balle de ping-pong, et vous vous demandez combien de balles de ping-pong on peut mettre autour. Là, on tombe sur une difficulté majeure. C'est assez facile de voir qu'il y a de la place pour en mettre 12. Mais quand on a mis 12 balles de ping-pong autour d'une balle de ping-pong, il reste un peu d'espace, il y a un peu de jeu qui reste. Est-ce qu'il y a assez de place pour en mettre une 13e? Est-ce qu'on peut mettre 13 balles de ping-pong au lieu autour d'une balle de ping-pong? Eh bien, il a fallu 3 siècles avant qu'on puisse répondre à cette question. Il y avait des grandes disputes entre Newton, Gregory, etc. Des grandes disputes entre le 12 et le 13. Et finalement, on sait que c'est 12. On peut mettre 12 balles autour d'une balle et pas 13.
Et preuve à l'appui, hein, puisque tout ce que vous nous dites, Étienne Gis, on peut le lire et on peut le voir dans cet ouvrage. La petite histoire des flocons de neige, qui ont donc fasciné les plus grands savants. On y reviendra aussi parce que moi, je pensais que c'était des fractales. Je pensais que vous parlez d'atomes, qu'on peut descendre au plus petit, que les flocons de neige. Et je pensais que c'était finalement comme un peu des fractales. C'est-à-dire qu'en gros, la vache qui rit avec ses boucles d'oreilles. Et qu'à l'intérieur des boucles d'oreilles, on voit
la mise en abîme.
La mise en abîme. Voilà. Vous nous expliquerez que ce n'est pas tout à fait ça. Mais il y a autre chose de fascinant, vous l'avez dit. Et c'est ce qui ajoute, c'est ce qui fait peut-être leur beauté, c'est leur symétrie. C'est tout de même difficile à comprendre, encore plus à la radio et sans les schémas, même pour un logicien et informaticien comme Jean-Paul Delahaye, qui était récemment notre invité. Écoutez sa question, elle est pour vous, Étienne Gis.
Pourquoi les flocons de neige sont symétriques? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont symétriques. Pourquoi c'est nécessairement, ils doivent avoir cette symétrie de rotation Pour moi, les flocons de neige pourraient tout à fait être en longueur, autrement. Donc, je ne comprends pas d'où vient la symétrie des flocons de neige.
Alors, comment comprendre d'où vient la symétrie des flocons de neige? Alors, si moi, je vous pose la question, je comprends, mais un logicien, un informaticien, un chercheur, comme Jean-Paul Delahaye,
je
a déjà...
Bien sûr. Non, ce qu'on peut dire, c'est que la symétrie, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, la symétrie d'un flocon de neige au niveau macroscopique de sa taille du millimètre, est en fait le reflet d'une symétrie au niveau microscopique. Et s'il y a cette symétrie d'ordre 6, comme on dit, c'est parce que le cristal de glace au niveau, la répartition des atomes d'oxygène et d'hydrogène, a cette symétrie d'ordre 6. Et c'est tout à fait merveilleux. Il a fallu attendre très longtemps, il a fallu comprendre le travail des cristallographes au début du XXe siècle, pour comprendre que si on regarde... Un bloc de glace au niveau microscopique, on voit que les atomes d'oxygène, l'eau c'est H2O, il y a deux hydrogènes, un oxygène, et si on regarde comment les atomes d'oxygène se répartissent, c'est tout simplement merveilleux. Ils se répartissent par plaques horizontales, et dans chaque plaque horizontale, les atomes d'oxygène se répartissent comme les tomates.
Par six,
comme on l'expliquait. Et c'est donc en fait, c'est pour ça que les flocons vont croître à partir d'un noyau au départ microscopique et vont refléter cette symétrie qui existait déjà au départ.
Donc, qui existe en tout petit. Mais alors, justement, quelle différence avec les fractales ?
Alors, les fractales...
C'est autre forme très présente dans la nature.
Oui. Alors, les fractales, c'est un mot mathématique, dont l'origine est aussi au début du XXe siècle. Et en particulier, un mathématicien allemand qui s'appelait Koch a découvert des courbes très étonnantes qui étaient... tout à fait répugnante pour les mathématiciens de l'époque parce qu'elles étaient très irrégulières. Elles faisaient des circonvolutions que les mathématiciens ne pouvaient pas accepter. Poincaré écrivait des choses, je me détourne de ces horreurs, etc. etc. parce qu'à l'époque, on pensait que tout était régulier, lisse, etc. Et donc, ce mathématicien allemand a inventé, a découvert, a construit une courbe très irrégulière. Et il se trouve que cette courbe ressemble à un flocon. Et par analogie, on a appelé ça le fractal, le flocon de Koch.
Ah, et puis, le fractal, c'est le flocon de Koch.
Voilà, c'est le premier fractal. Mm-hmm. Et depuis lors, on a vu apparaître des tas de fractales mathématiques, en particulier avec le mathématicien Mandelbrot, qui en a fait une publicité extrêmement répandue. Et c'est un exemple intéressant, puisque un fractal, dans sa définition, est un objet mathématique, alors que là, on parle d'un objet physique. Mm-hmm. Et quand on dit un fractal, c'est quelque chose qui est toujours le même, quelle que soit l'échelle à laquelle on regarde. Mmh. Ce n'est pas vrai pour un flocon de neige, parce que quand on regarde les atomes, il y a des points l'un à côté de l'autre.
Et
donc,
oui.
les changements d'échelle ne fonctionnent que jusqu'à une certaine limite. Mais ce n'est pas nouveau. Les mathématiques sont là pour modéliser le réel, proposent une image des objets réels qui a ses limites.
Qui a ses limites, mais qui sont belles, hein, on l'a dit. Hein. Est-ce que c'est aussi ces lois sous-jacentes, ces lois mathématiques dans le réel qui rendent beau on ne le sait pas. On va continuer de s'interroger là-dessus ensemble, Étienne Gis. On va expliquer aussi l'essor de la cristallographie en général, hein, car étudier les flocons de neige, on le comprend, nous entraîne très loin, vous l'avez dit, jusqu'à la quasi-symétrie, mais n'anticipons pas. Et profitons de votre petite histoire des flocons de neige, petit ouvrage génial dont nous avons un exemplaire. Je vous le rappelle, à vous offrir, chers amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Profitons-en donc pour écouter Tomber la neige, et oui, le tube d'Adamo, mais en version Balkan, par le groupe franco-serbe Zivelli Orchestar. Ça déménage.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. On m'attend de la neige, toutes tes plantes, tes espoirs. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Oh, tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soir, je cortège tout en larmes blanches. L'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Mais tu ne viendras pas ce soir, malgré mon désespoir. On m'attend à la neige, impassible manège. Tu ne viendras pas ce soir, malgré mon désespoir. On m'attend de la neige, impassible ma neige.
neige, le Zivelli Orchestar sur RFI pour une reprise balkanique, tragique et volcanique du tube d'Adamo. Incontournable autour de la question de la science des flocons de neige que l'éminent mathématicien que vous êtes, Étienne Gis, nous fait partager dans cet ouvrage, j'ai envie de dire à la fois modeste et génial, La petite histoire des flocons de neige. Aux éditions Adil Jacob, une petite histoire que vous avez commencé par rapporter dans des conférences pour jeunes publics et puis à l'université et jusqu'au Brésil, Étienne Gis, où vous avez fait une conférence devant des Brésiliens qui n'avaient jamais ou si peu vu la neige, comme d'ailleurs beaucoup de nos auditeurs sur le continent. D'où l'idée que vous avez eue, Étienne Gis, de leur passer ce petit extrait du film Bye Bye Brésil, où une troupe de circassiens fait miraculeusement tomber la neige dans un petit village chaud et aride du nord-est brésilien. On écoute tout de suite cet extrait que vous nous avez fait passer en VO brésilienne, commenté, traduit et audio décrit, si j'ose dire, par un de nos journalistes de la rédaction brésilienne de RFI, Elcio Ramalho.
E agora, em caráter absolutamente extraordinário, em homenagem ao distinto público desta fabulosa cidade, eu, Lorde Cigano.
On voit ces magiciens, Lorde Cigano, il se présente comme le maître du rêve, qu'il peut transformer en réalité n'importe quel rêve de n'importe quel brésilien.
Muita fartura e progresso, ser eterno.
Il y a deux personnes qui réagissent. Un qui demande qu'il ne manque rien, et l'autre, je vais être éternel. Là, il rigole un peu, il dit, c'est pas possible pour moi.
Posso fazer milagres com a vida. Eu posso, por exemplo, tornar real o sonho de todos os brasileiros.
Je peux faire quelque chose d'incroyable pour ce pays, dans ce pays, qui soit quelque chose absolument impossible, c'est de faire neiger au Brésil.
Neve.
Au revoir.
Parece coco ralado.
Et là, on voit la neige qui tombe. Et le public qui réagit, il s'éclate en fait. Il y a même une personne qui dit, ça ressemble à la noix de coco râpée.
Comme la Suisse, l'Allemagne, la France, comme la belle Angleterre.
Il neige comme en France, comme en Suisse, comme dans l'Amérique du Nord, aux États-Unis, donc comme n'importe quel pays civilisé, c'est le mot qu'il emploie. Voilà, il neige au Brésil.
O Brasil também tem neve.
Merci Étienne Gis pour ce magnifique extrait donc audio décrit par notre confrère de la rédaction brésilienne de RFI, Elcio Ramalho. Alors même si on le rappelle, la neige ou les flocons de neige qui tombent sur Terre n'assurent absolument pas que le pays concerné est plus civilisé qu'un autre, parce que Étienne Gis, la neige, elle tombe partout, et même au Brésil et même en
Bien
Afrique.
Sûr. Mais si vous voulez, je compte un petit commentaire sur l'extrait brésilien, que je vous explique un peu les circonstances. J'ai eu l'occasion, comme j'aime beaucoup le Brésil et j'ai habité longtemps au Brésil, j'ai eu l'occasion de faire un exposé sur les flocons de neige devant des jeunes Brésiliens de 14-15 ans. Et en fait, ces Brésiliens étaient mille jeunes qui avaient gagné une médaille d'or. Une médaille d'or d'une compétition nationale qui a été fondée par le président Lula, très... très populaire, puisque chaque année, tenez-vous bien, 19 millions d'enfants
ah oui.
entrent dans cette compétition mathématique.
Ah, une compétition une scientifique,
compétition de mathématiques mathématique. Pour des gamins qui ont 13, 14, 15 ans. Et les 1000 premiers ont une médaille d'or et ils ont un cadeau. Et le cadeau, c'est un voyage à Rio de Janeiro. Mmh. Voilà. Pour la plupart d'entre eux, c'est extraordinaire. Ils n'ont jamais vu Rio. Et cette année-là, en quelque sorte, ils avaient ce voyage à Rio et je leur ai fait une conférence. Donc j'avais le public rêvé parce que j'avais 1000 gamins doués pour les maths face à moi. Et puis, comme vous l'imaginez, des jeunes Brésiliens sont toujours enthousiastes. Alors je leur ai présenté ce petit bout de film et après je leur ai parlé un peu de mathématiques. Donc pour moi, ce film qu'on vient d'entendre là, c'est un excellent souvenir.
Eh oui, excellent voilà. Souvenir, comme quoi un pays peut soutenir exactement. Ses jeunes et les encourager dans la voie mathématique. Vous êtes aussi...
Hélas, Bolsonaro ne soutient plus ça. Voilà. Oui, ça. Mais c'est une autre question.
C'est une autre question. Mais vous, en tout cas, vous soutenez aussi, vous êtes président d'honneur d'une association mauritanique, le professeur de mathématiques, Tiengis.
Oui, moi, j'aime beaucoup voyager, un peu moins ces temps-ci. Mais je me souviens par exemple d'un voyage en Mauritanie où j'ai eu l'occasion d'aller dans l'université de Nouakchott, de leur faire une conférence, non pas sur les flocons de neige, mais sur le ballon de football, voilà, sur la forme des ballons de football.
Ça peut être un sujet mathématique.
C'est un sujet de mathématiques, bien sûr. Et puis là aussi, c'est un sujet de symétrie. Si vous regardez un ballon de football normal, vous voyez qu'il a des pentagones et des hexagones, n'est-ce pas ? Et donc, il est formé lui aussi avec une loi de symétrie tout à fait magnifique qu'on appelle la symétrie icosaédrale.
Icosaédrale. Voilà. Et ben, je ne sais pas si beaucoup de supporters de foot sont au courant, ben mais voilà, comme quoi tout exactement. Peut mener aux mathématiques et voilà. Inversement. Et pour en revenir à ces flocons de neige, revenons à nos flocons de neige. Au Brésil, sur le continent ou ailleurs, il n'y a pas des flocons de neige, mais pourtant, il y a bien en haut, il neige partout sur la Terre.
Donc les flocons se forment dans les nuages, hein, comme vous pouvez l'imaginer, comme tout le monde le sait, les nuages en altitude. Et par un processus qu'on peut décrire si vous le voulez. Et puis quand les flocons deviennent suffisamment gros et lourds, ils sont trop lourds, ils tombent. Et c'est là que la neige se forme. Simplement, lors de la chute du flocon, si au sol il fait 35 degrés, les flocons arrivent fondus et transformés en gouttes d'eau. Ce qui fait que même si vous êtes au Sahara, même si vous êtes au Brésil, au Sertão, comme tout à l'heure, même s'il fait des chaleurs abominables, vous devez savoir qu'il neige quand même au-dessus de votre tête, sauf que vous ne pouvez pas les voir, les flocons.
Et par contre, on peut les voir dans ce magnifique ouvrage, La petite histoire des flocons de neige, en sachant qu'il n'y a pas une seule équation, qu'il y a des portraits, des histoires magnifiques, et alors des images, des photos, des dessins absolument extraordinaires autour de la question « Quelle science des flocons de neige ?» C'est une science, on l'a entendu au début de cette émission, dont l'un des plus modernes initiateurs, explorateurs, est un chercheur japonais. Le professeur Ukushiro Nakaya, connu de tous au Japon, ce professeur de l'Université impériale d'Hokkaido, a consacré sa vie de 1900 à 1962 à l'étude des flocons de neige. Il a été le premier à créer des flocons de neige artificiels. Vous lui consacrez évidemment un chapitre, vous nous l'avez fait découvrir. Nakaya, l'expérimentateur, le classificateur, c'est un des plus célèbres savants du Japon. Tous les enfants connaissent ses travaux. Je vous propose d'écouter l'extrait d'un petit film réalisé dans son université, donc à Hokkaido, à l'Institut des basses températures qu'il avait fondé, dans lequel un de ses élèves et proches disciples fait revivre ce professeur des flocons de neige.
Je me souviens encore très bien de la fois où le professeur Nakaya a apporté un grand projecteur de diapositives dans mon école et a parlé de la neige, en 1942. J'étais alors en CM1. Je me souviens aussi plus tard de son dispositif de test. Lorsqu'il est arrivé ici, comme l'université venait d'ouvrir, il n'y avait pas encore de laboratoire d'expérimentation. Bien qu'il se soit initialement intéressé à des sujets comme l'énergie atomique, il a décidé de profiter de son séjour à Hokkaido pour étudier la nature. Et c'est la neige qu'il a choisie. Il a fait ce choix car la neige était abondante à Hokkaido. Il pouvait donc étudier ses cristaux. Pour créer les conditions nécessaires à cette étude de la neige, il a lui-même réussi à produire de la neige artificielle. C'était un dispositif très simple qui générait de la vapeur par le bas et contrôlait la température afin de comprendre ce qui se produit lorsque l'humidité et la température varient. Le célèbre diagramme de Nakaya, qui lui a valu le prix de l'Académie impériale, décrit précisément le type de cristaux qui se forment en fonction de la température et de l'humidité. Et comme les conditions atmosphériques dans le ciel peuvent se déduire de l'observation des flocons de neige, il a eu cette célèbre phrase « La neige est une lettre du ciel ».
La neige comme une lettre envoyée du ciel.
C'est magnifique. Hein
magnifique formule et qui est une réalité, du professeur Nakaya, mais qui est au fond une réalité.
Oui, c'est un peu plus compliqué que ça parce que le flocon de neige se forme au sein du nuage. Il y a dans ce nuage une certaine température, une certaine humidité. Et puis le flocon, il se promène, il danse au gré du vent. Mm-hmm. Et ce qui fait que lors de sa croissance, La forme qu'il prend dépend non seulement de la température, de l'humidité, mais dépend aussi tout simplement de l'histoire, du chemin qu'il a suivi, de la danse qu'il a suivi. Ce qui fait que la neige, la lettre qui vient du ciel, contient en effet l'information de là d'où ça vient, de la température, là où il est né, de l'humidité là où il est né, mais il contient aussi une information complexe et difficile à lire, qui est le chemin qu'il a suivi dans sa danse initiatique, en quelque sorte.
C'est-à-dire qu'on peut lire, hein, le flocon de neige peut permettre de remonter, de connaître les conditions atmosphériques du ciel, donc l'atmosphère du ciel, voilà, autour de notre tête, la météo, enfin, on peut lire dans le flocon de neige son histoire et donc l'histoire de ce qui se passe
au-dessus. C'est en effet comme ça qu'il faut comprendre ce diagramme de Nakaya. Donc c'est un diagramme, alors il y a deux coordonnées, et dans les coordonnées horizontales, il y a la température, coordonnées verticales, il y a l'humidité. Et puis, pour chaque humidité et chaque température, il y a un petit dessin qui dit, voilà, dans ces conditions, vous aurez telle sorte de flocon qui va se produire. Donc, on peut l'utiliser à l'envers. Si on voit un flocon qui est arrivé sur le sol, on regarde dans le diagramme où c'est, et on peut donc, en gros, deviner la température et l'humidité de là où il a été créé.
Et ce qui explique aussi cette formidable diversité dont on parlait au début, le fait que les flocons de neige ont tous 6 branches, on l'a dit, sont tous symétriques, mais aucun n'est pareil.
Mais aucun n'est pareil. C'est ça qui est assez extraordinaire. Quelqu'un me dit, mais pourquoi, comment est-ce possible qu'ils soient aussi différents? Mais la réponse, elle est simple. J'ai envie de dire, est-ce que vous avez déjà vu deux êtres humains identiques? C'est un peu le même type de diversité. Les êtres humains sont tous identiques, sont tous différents, pardon.
Mais tous pareils et tous différents.
En même temps, on est pareil, on a tous deux bras, deux pieds, on a quand même une vague symétrie d'ordre 2, n'est-ce pas? Puisque
nous aussi, on a deux bras, deux jambes, deux yeux.
On est à peu près symétrique par rapport à une droite verticale, hein, par rapport à un plan vertical. Ouais. Donc nous aussi, on a cette symétrie et on a cette grande diversité. C'est un peu la même chose. Les flocons sont d'une grande diversité, mais de la même manière qu'il y a plein de sortes d'êtres humains, il y a des grands, des petits, des noirs, des jaunes, des blancs. Et de la même manière, il y a toutes sortes de flocons.
Toutes sortes de flocons. C'est vraiment parce qu'en vous parlez, Étienne Gis, mais c'est peut-être le fait d'avoir lu votre livre, où il y a énormément d'illustrations. Je vois les choses, je vois le flocon, je nous vois en symétrie. Donc, merci beaucoup. Et je vois aussi ce que c'est justement que le vivant, au fond. Le vivant qui n'est jamais pareil, très différent de l'artificiel, autour de la question jusqu'où nous entraînerons les flocons de neige. Aujourd'hui, nombreux sont les successeurs du professeur Nakaya qui fabriquent des flocons de neige, mais alors pour le coup, de neige artificielle, pour nos loisirs de glisse, de la neige de culture. Difficile.
La neige de culture, j'aime pas.
Vous aimez pas ?
J'aime pas, parce que c'est pas beau. Parce que d'abord, je trouve que c'est pas très sympa de faire la neige artificielle. Mais, et d'autre part, si on regarde de près la neige artificielle, elle n'est pas formée de flocons jolis. C'est des petites boules de glace. C'est pas du tout. Allez, n'en parlons pas.
N'en parlons pas. Est-ce que je vous fais quand même écouter l'éclairage d'un spécialiste, d'un producteur de neige artificielle? Allez, il s'appelle Bertrand Lambla. Lui, il est responsable de la société Wisno, donc producteur de neige artificielle. Et il est interrogé par notre reporter Jérémy Bazar. On l'écoute et puis vous verrez qu'il a du mal à faire mieux.
Lui aussi.
Alors le flocon de neige naturel, il a une architecture qui est bien, qui est très très jolie, très compliquée, très complexe. Les flocons de neige qui sont faits par la neige de culture, comme c'est nucléarisé autour d'un noyau qui est rond, c'est plutôt cylindrique en fait comme forme. Ce sont des petites billes de glace microscopiques. C'est pas une forme aussi sophistiquée qu'un flocon de neige en fait. On sait maintenant comment produire de ce produit qui ressemble à la neige, hein, qui est de la glace broyée, pulvérisée. Notre travail est surtout pour rendre nos enneigeurs moins énergivores et on restitue deux fois plus de chaleur que l'on en consomme pour la production de neige, en fait.
Bertrand Lambla, est-ce qu'il existe un flocon magique, un flocon impossible qu'on a trouvé dans la nature, que vous êtes capable de fabriquer?
Non, on ne l'a pas encore trouvé. Et si je l'avais trouvé, je serais peut-être très riche ou très, très célèbre.
Et quelles pourraient être ses propriétés à ce moment-là? Vers quoi est-ce que vous tendez?
Il faudrait être capable de faire un flocon de neige sans énergie. Là, ce serait fantastique.
Et dans leur forme et dans leur propriété?
Dans la propriété, dans la forme, nous, toute cette matière est utilisée pour de la neige, donc pour de la neige de station, pour la glisse en fait, pour enneiger les pistes de ski. Donc il faudrait qu'elle soit très froide, très blanche et très glissante.
Bon, rien de mieux que la vraie neige, hein, pas du tout artificielle, et les vrais flocons de neige, Étienne.
C'est intéressant ce qu'il dit sur beaucoup d'aspects. Par exemple, on lui demande si on pourrait faire une nouvelle forme. Mmh. Et ça fait penser à ces chimistes qui inventent des molécules nouvelles qui n'existent pas. Par exemple, on a fabriqué vers la fin du XXe siècle des molécules de carbone qui ont la forme d'un ballon de football, justement, qu'on appelle fullerène, si on est un peu sérieux, ou parfois le footballène. Donc, les chimistes sont capables de fabriquer des molécules qui ont une forme et une symétrie qui peut être magnifique et qui n'existe pas dans la nature.
C'est en s'inspirant de la nature, c'est du biomimétisme, pour le coup.
Exactement. Vous parliez tout à l'heure aussi du vivant, et on revient à Kepler. Kepler était tout à fait émerveillé par les flocons. Et l'une des choses qui l'intriguait précisément, c'est de voir ces 6 branches qui poussent dans un flocon, qui sont toutes identiques entre elles, cette symétrie, à tel point qu'il se demande si ces branches ne peuvent pas communiquer entre elles. Est-ce qu'il n'y a pas des messages qu'une branche envoie à l'autre? Et on est quand même au début du XVIIe siècle. Et il se demande si ces flocons ne sont pas vivants. Et il leur attribue même une âme. Alors, il faut voir qu'à l'époque, même le grand Kepler attribuait aussi une âme aux planètes. Mmh. Chaque planète avait une âme. Donc, vous voyez, on est dans une période assez fascinante où on réfléchit à ce qu'est l'âme, ce qu'est la religion, ce qu'est la nature, ce qu'est le vivant. Et vous savez que quand on se pose la question « qu'est-ce qui est vivant ?», l'une des premières définitions qui vient à l'esprit, c'est « le vivant, c'est ce qui se reproduit ». Mais un flocon, ça se reproduit, puisque le flocon grandit en reproduisant ses formes. Un cristal se reproduit. Donc, qu'est-ce qui manque au cristal pour être vivant? Voilà, ce sont des questions passionnantes.
Des questions passionnantes que se posait Kepler et qu'on se repose aujourd'hui, où le vivant, enfin les frontières du vivant ne cessent d'être repoussées. Qu'est-ce qui est vivant? Les virus, les cristaux.
Exactement, on en parle beaucoup en ce moment. Voilà. Est-ce que les virus sont vivants ou pas? Les questions intéressantes.
La question se repose. Aujourd'hui, alors, on a parlé de neige artificielle, on va un peu oublier. On va rester sur la vraie neige et sur les vrais flocons de neige autour de cette science des flocons de neige. Mais il y a aussi de la neige virtuelle. Alors, ça, c'est pas mal non plus.
Alors là, on rentre plus dans mon domaine, c'est-à-dire qu'on rentre dans les mathématiques qui, pour le coup, sont abstraites. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais essayer de comprendre comment se forme un flocon de neige, comme c'est compliqué, comme c'est vraiment difficile d'aller voir là-haut dans le nuage comment ça se passe, comme j'ai pas envie d'avoir froid comme le professeur Nakaya qui devait se geler quand même dans son laboratoire avec ses flocons. Eh bien, le mathématicien lui ressort bien au chaud et essaye d'inventer des modèles informatique ou mathématique qui mime la croissance d'un cristal. Et un certain nombre de mathématiciens, c'est ce qui se passe vers la fin de mon bouquin, je vais t'expliquer un peu quelques-uns de ces méthodes, un certain nombre de mathématiciens ont inventé des modèles virtuels de flocons. Alors on voit le flocon qui va grandir sur un écran d'ordinateur, et c'est un flocon qui n'existe pas. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez joué ça, à ce jeu... comment ça s'appelle, des mineurs. Ça vous dit quelque chose, des mineurs? Où on clique sur des cases et puis on cherche des mines. Et donc, ces mathématiciens ont inventé des petits logiciels qui sont censés imiter la nature et fabriquer des flocons. Et les images qu'ils obtiennent
sont éblouissantes,
sont vraiment très, très, très proches des vrais flocons. Mm-hmm. Donc, en ce sens, ils sont contents. Voilà pourquoi. Mais ils sont faux, puisqu'ils sont sur un écran d'ordinateur.
C'est ça, c'est du virtuel, voilà. C'est de la cristallographie. Les flocons de neige, c'est comme les cristaux. C'est la même chose, exactement.
Voilà. Un flocon de neige, c'est un cristal en croissance. Hein, c'est un cristal qui n'est pas encore terminé, en quelque sorte. Hein, puisqu'il a commencé sa vie dans le nuage, grandi. Puis quand il était trop lourd, il tombe. Mais s'il n'y avait pas eu de gravitation, il aurait continué. Et ça serait devenu un bloc de glace. Ça serait devenu un cube de glace sans intérêt.
Hein ? Autour de la question jusqu'où nous entraînera vraiment les flocons de neige et la science des flocons de neige. On a parlé des flocons virtuels. Impossible de vous les montrer, chers amis auditeurs, parce qu'on est à la radio. Mais on met tout de même quelques images sur notre page Facebook. À l'écoute de Sia sur RFI Snowflake. Snowflake, I got you tonight. You and keep you on ice, my love. Snowflake, you know you're the only one. There's no one like you.
snowflake, I'm trying to keep you safe. You gave me your trust and I want to say, snowflake, you know I have got your back. There's no one like you, so I'm gonna hide you, my sweet. Keep you till winter when you won't be needing me. Christmas.
Snowflake, les flocons de neige de Sia, ce ne sont pas des snowflakes, hein, ce ne sont pas des flocons de neige virtuels comme ceux dont on vient de parler avec vous, Étienne Guisse, autour de la question comment tombe la neige. Nous sommes donc en votre compagnie et vous nous faites, en tant que mathématicien, partager votre science. Et la petite histoire des flocons de neige et de la cristallographie, une histoire du beau, du merveilleux qui tombe du ciel sur notre petite planète. Et aussi, justement, dans l'espace, la science des flocons, la cristallographie peut-elle inspirer les planétologues, comme Sylvestre Maurice en charge de l'instrument Supercam sur le rover Persévérance qui vient d'atterrir sur Mars. Sylvestre Maurice était hier notre invité. Écoutez, Étienne Guisse, ce que les flocons de neige terrestres, voire martiens, peuvent lui inspirer.
La cristallographie, c'est une science qu'on a mis du temps à mettre en place, assez ancienne, mais qui a fait des découvertes extraordinaires sur la symétrie de la nature. Et les flocons en sont un des plus beaux exemples. Moi, je n'ai pas tant de choses à dire. Ça retouche ce que nous, on appelle la minéralogie, c'est-à-dire comment les molécules s'organisent entre elles. Elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Alors, si on devait faire l'extrapolation à nos découvertes, à nous, c'est de se dire comment sont les flocons de neige, alors c'est de la neige de CO2 sur Mars avec une atmosphère différente, mais et peut-être qu'on trouverait probablement des choses très semblables parce que ça touche à une notion un peu plus large, c'est que la physique est la même partout. Souvent les gens nous disent, oui mais si sur telle planète vous n'avez pas imaginé un élément inconnu, bon il n'y a pas trop d'éléments inconnus, on sait bien comment est fait la nature, si vous n'avez pas imaginé une autre physique, je dis non, nous on part du principe que la physique est la même partout. Et donc les flocons que décrit ce monsieur admirablement sur Terre et plein d'autres choses en cristallographie, on doit retrouver les mêmes choses sur nos petits corps planétaires, j'en suis sûr.
Qu'en pensez-vous, Étienne Guisse, de la neige de CO2 sur Mars,
ce qu'il dit est tout à fait intéressant, sauf que l'eau, c'est H2O, le CO2, c'est CO2.
Ouais.
Et la géométrie de ces petites molécules n'est pas la même. Si vous regardez une
donc
molécule,
des flocons martiens de neige de CO2, ça ne serait pas
si
les mêmes.
Si vous regardez une molécule d'eau, ça ressemble à la lettre V. Il y a le haut qui est la pointe du V, puis il y a deux bras qui partent. Et l'angle d'ouverture de ce V, c'est à peu près 120 degrés. Mm-hmm. Et ce 120 degrés, c'est à peu près l'angle d'un hexagone. Et c'est cette curiosité géométrique de la molécule d'eau qui fait que les molécules d'eau ont tendance, lorsque l'eau gèle, les molécules d'eau ont tendance à s'organiser pour former spontanément des choses hexagonales. Le CO2... Et c'est aussi une magnifique molécule, mais ça n'a pas la même géométrie. Donc, lorsque le CO2 va se cristalliser, il ne prendra pas le même type de forme. Donc, la neige de CO2 n'aura pas la même forme que la neige de H2O.
Extraordinaire, parce qu'on était aussi en compagnie d'une autre planétologue qui travaillait sur Titan et qui nous parlait peut-être de flocons de méthane sur Titan, mais c'est pareil, ce serait pas la même géométrie.
C'est ce qu'on entendait à l'instant. La cristallographie est une science absolument merveilleuse qui explique en gros comment les molécules se collent entre elles pour former des magnifiques formes. En fait, c'est un peu comme un jeu de Lego. Et quand vous faites un jeu de Lego, ça dépend de savoir combien il y a de plots. Et le H2O, le CO2 ou le titane ont des bras de manière un peu différente, ce qui fait que chaque molécule va mener à des géométries différentes. Et ces symétries, ces groupes de symétries, ces cristaux, ont été étudiés pendant tout le 19e siècle, le 20e siècle. C'est un joli mélange de mathématiques, puisqu'il s'agit de comprendre des groupes de symétries et de physique et de chimie.
C'est ça. Hein. Vous pensez comment, vous, dans votre tête de mathématicien qui nous fait sentir approcher la physique, la beauté des choses? On n'a pas parlé des artistes aussi et des œuvres d'artistes autour des cristaux. Comment vous les... Moi, vraiment, quand je vous entends, je les vois en plusieurs dimensions. Je ne sais pas si c'est ce que vous dites ou le fait que j'ai bien lu votre livre et pensé aux cristaux et aux flocons de neige. Mais comment vous pensez, vous, justement, les flocons de neige? Vous les voyez en équation, en chiffres, en dimensions? Comment, dans votre tête?
Je vais vous dire un petit secret. Oui. Le secret, c'est que pour moi, les flocons de neige sont un peu une excuse, un moyen de parler de science et de mathématiques à des gens qui n'ont pas spécialement étudié les mathématiques. Mais le secret, c'est que les vraies mathématiques qui m'intéressent profondément, qui me sont personnellement, qui m'empêchent de dormir la nuit, par exemple, sont des choses qui sont beaucoup plus difficiles à communiquer et qui se représentent de manière très différente. Par exemple, moi, je travaille très souvent dans la quatrième dimension, par exemple. Alors ça, je ne pourrais pas vous le montrer dans un petit livre.
Et donc, vous avez choisi de nous faire passer les flocons de neige. C'est beau aussi, la quatrième dimension?
C'est encore plus beau, parce que ça n'existe pas. Donc, c'est encore plus beau, parce qu'on peut y aller personnellement. Et c'est un petit recoin personnel où on peut avoir son petit plaisir.
Merci infiniment, Étienne Gilles, d'avoir fait partager et avoir une petite idée de ce que peut être votre quatrième dimension de mathématicien. En tout cas, vous avez partagé poétiquement, artistiquement, scientifiquement, votre science des flocons de neige, la petite histoire des flocons de neige, votre ouvrage magnifique, hein, vraiment génial, concis, merveilleux, les mots ne sont pas trop forts au vu des illustrations, est paru aux éditions Odile Jacob et vous ne regarderez plus jamais la neige tomber ou pas de la même façon. Merci Étienne Gilles, vous revenez quand vous voulez.
Un grand merci
dans notre quatrième dimension à nous.
Voilà.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de nos rediffusions estivales et des meilleurs moments de l'année écoulée avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Rendez-vous demain pour d'autres interrogations à partager avec vous, chers amis auditeurs et internautes. Surtout, restez curieux et gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Dans quelques instants, c'est l'heure de retrouver les informations sur RFI.